Il n'y a pas de différence notable dans les notes et les scores des États. Ce que l'on observe plutôt, c'est une situation qui stagne au niveau des perceptions, mais en revanche, des attentes des citoyens qui sont de plus en plus fortes. On l'a vu à l'occasion du printemps arabe, on le voit aujourd'hui avec le mouvement des indignés. Dans tous ces mouvements, les niveaux de corruption ont joué un rôle déterminant, notamment dans le printemps arabe, où c'est la conjonction de régimes autoritaires dans lesquels les libertés publiques ne sont pas garanties, avec des niveaux très élevés de corruption. Pays dans lesquels les richesses étaient accaparées par une petite minorité, c'est ce cocktail qui a amené les gens à descendre dans la rue et à renverser ces régimes. Donc c'est surtout ça pour nous l'évolution majeure de l'année passée, c'est que très clairement on atteint des niveaux de corruption qui sont devenus insupportables pour beaucoup de populations à travers le monde.
Donc toujours sur les printemps arabes, quelles conséquences ces révolutions dans différents pays ont pu avoir sur la corruption ou la manière dont on traitait le dossier de la corruption ?
Alors c'est un peu tôt pour le dire parce que les dossiers de corruption sont toujours des dossiers techniques qui implient des considérations juridiques, financières assez lourdes. Mais l'avancée la plus notable à ce jour, c'est clairement dans le domaine du gel et de la restitution des avoirs détournés qu'on peut l'observer. Même si à ce jour, il y a encore peu d'avoirs détournés qui ont été gelés et rapatriés, il y a en tout cas eu des annonces politiques, des mesures de gel dans beaucoup de pays à travers le monde qui étaient absolument inédites. Et aujourd'hui, une coopération qui s'est engagée, notamment entre l'État tunisien et plusieurs pays où des avoirs étaient gelés, pour rapatrier ces avoirs en Tunisie. Donc c'est des processus qui sont un peu longs, mais qui ont déjà, par exemple, déjà abouti en France au gel d'un jet privé et de 12 millions d'euros sur la base d'une plainte qu'a d'ailleurs déposée Transparence Internationale France. Donc je dirais que la principale évolution au niveau du printemps arabe, c'est clairement la question du gel et de la restitution des avoirs détournés. Après, en ce qui concerne la corruption au quotidien, la corruption qui peut toucher n'importe quelle famille, que ce soit en Tunisie, en Égypte ou en Libye, les transformations que nous espérons sont des transformations qui prennent évidemment plus de temps et qui sont intimement liées aux fondations nouvelles qui sont posées dans ces pays pour créer des États solides, des États de droit, dans lesquels la loi est la même pour tout le monde.
L'autre grand sujet, évidemment, de ces derniers mois, voire années, c'est donc la crise économique qui frappait les États-Unis, qui frappe maintenant la zone euro. Est-ce que le manque de transparence, la corruption, a eu un impact, un effet, justement, sur cette crise économique dans le passé, mais aussi aujourd'hui ?
Très clairement, oui. Elle fait partie des facteurs de la crise économique. Alors, c'est difficile de dire dans quelle mesure elle a joué, mais elle a clairement joué. Enfin, je vais vous donner un exemple très simple. Dans un pays où la corruption est très forte, comme en Grèce. C'est très difficile de convaincre un petit commerçant qui doit payer des bakchiches à trois administrations différentes. C'est très difficile de le convaincre de son devoir civique de s'acquitter de l'impôt. Et cet exemple-là, il est malheureusement généralisé en Grèce. Et le problème de la fraude fiscale en Grèce, il est intimement lié au niveau de corruption qui alimente un incivisme qui aujourd'hui a contribué à placer la Grèce dans une situation très difficile. Et la corruption aussi, par définition, c'est le détournement de richesses, c'est la mauvaise utilisation de fonds publics. Donc ce sont des gaspillages qu'aujourd'hui, ces États paient de manière très forte.
Vous avez des recommandations, vous, Transparency International, par rapport à ces problèmes de corruption qu'il y a dans les pays de la zone euro ?
Ce que nous disons déjà, c'est que les différentes règles qui se sont développées depuis une dizaine d'années environ, aujourd'hui, vous avez les conventions internationales qui sont encore assez récentes, qui ont été adoptées il y a environ 10 ans par des États, mais ce sont des textes qui sont aujourd'hui encore très insuffisamment appliqués. Il y a par exemple la question essentielle de la protection des déclencheurs d'alerte. Des personnes qui, par civisme, ont le courage de dénoncer la corruption dont ils sont témoins sur le lieu de travail, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient salariés d'une entreprise, ces personnes-là, généralement, ont leur carrière brisée, alors qu'elles jouent un rôle essentiel justement pour faire reculer les niveaux de corruption. Et aujourd'hui, elles sont très insuffisamment protégées partout en Europe.
Pour en revenir au cas de la France en particulier, la 25e position, pourquoi est-ce que la France est si bas ? Qu'est-ce qui la distingue par exemple de la Finlande ou du Danemark qui arrive dans le top 5 ?
Pour les observateurs internationaux, donc c'est plutôt le monde des affaires, cet indice donne les perceptions du monde des affaires. La classe politique française et l'administration française sont moins intègres que leurs homologues des pays des pays scandinaves. Les raisons de ces perceptions, on peut les trouver déjà dans les affaires dont les médias français mais internationaux se sont fait l'écho depuis maintenant 2 ou 3 ans et qui ont impliqué tour à tour des anciens présidents de la République, premiers ministres, ministres. Tout ça donne une image très négative de la France à l'international. Après, sur les raisons plus objectives, ce que nous, on constate, c'est qu'il y a clairement en France un rapport un peu plus ambigu vis-à-vis des phénomènes de corruption de la part des Français par rapport à des Scandinaves et une certaine tolérance vis-à-vis de petits arrangements qui sont beaucoup moins tolérés dans d'autres pays. Donc il y a aussi un gros travail de sensibilisation à faire pour une ONG comme nous pour montrer quels sont tous les dommages qui sont causés par la corruption et pour convaincre les Français d'être un peu plus exigeants envers leurs représentants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais ce qui est déjà le cas, ce qu'on constate, c'est que quand même depuis un an ou deux, et notamment sous l'effet de la crise financière, il nous semble que les Français demandent de plus en plus de comptes à leurs représentants sur la bonne gestion de ceux-ci.
Afghanistan, Corée du Nord, Soudan, Irak, est-ce qu'on peut dire, qui sont donc dans le bas de la liste, est-ce qu'on peut dire que la corruption est liée à un système politique ?
On peut le dire, mais il y a quand même des exceptions notables. Généralement, les niveaux de corruption vont de pair avec le manque d'état de droit, avec des régimes plutôt autoritaires. C'est très souvent le cas, mais il y a des exceptions notables, comme le cas de l'Inde. Enfin, la plus grande démocratie du monde est aussi un pays où les niveaux de corruption sont très forts. Donc le lien peut être fait, mais il n'est pas systématique.
Et du coup, pour tous ces pays, je pense évidemment au continent africain, mais aussi aux pays d'Asie centrale, est-ce que là, l'amélioration passe justement par plus d'états de droit ?
Complètement. Il y a un lien qui est absolument évident que nous faisons beaucoup entre la corruption et les droits de l'homme. Et d'ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme le font aussi. Ce que nous disent nos collègues dans des pays autoritaires où les niveaux de corruption sont très forts, c'est que la première des choses à faire pour lutter contre la corruption, mais c'est déjà de s'assurer que les droits de l'homme, les libertés fondamentales soient garanties, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, la liberté d'expression. Concrètement, c'est de ne pas finir en prison ou pire parce qu'on a oser demander des comptes à son gouvernement sur la manière dont il gère les ressources publiques. Donc très souvent, la lutte contre la corruption, ça commence par la protection des libertés fondamentales, des droits de l'homme les plus fondamentaux, comme l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, le droit à des procès justes, à une justice indépendante. Enfin, c'est vraiment le point de départ. Donc il y a un lien très fort entre protection des droits de l'homme et lutte contre la corruption.